la nature, elle n'est pas conservée. Et c'est pas bien parce que quand on arrivera à l'an 2000, il y aura presque plus de nature du tout.
La planète a la fièvre, le réchauffement climatique est bel et bien provoqué par l'homme. Le constat est alarmant.
I shouldn't be up here. I should be back in school.
Elle porte tellement d'images, cette musique. Toutes les musiques qui vivent pour elles-mêmes portent beaucoup d'images.
And will help make this planet a better place.
Mangrove Music vous présente Music with a Cause, le podcast des artistes qui s'engagent. Épisode 1, Romain Vivien et Fakir. Au départ, il y a un constat. Celui d'une société sans cesse en métamorphose, fondée sur toujours plus de croissance dans un espace de plus en plus limité et contraint. Ensuite, il y a une envie. Faire bouger les lignes, changer les récits, faire évoluer les mentalités. Inventer le monde de demain. Protéger la biodiversité, repenser notre connexion au vivant, transmettre et agir. Ce podcast va à la rencontre de celles et ceux dont la voix, les textes et les mélodies s'inscrivent dans cet effort. Dans ce premier épisode, spécial Fête de la musique, nous discutons avec Romain Vivien, directeur général de Billy France, et Fakir, auteur-compositeur de musique électronique. Bienvenue à tous les deux et merci d'être là.
Merci.
C'est quoi, Twitch?
Pour ce spécial Fête de la musique, il nous a semblé essentiel d'aborder la question de l'empreinte écologique de l'industrie musicale. À mes côtés aujourd'hui, j'ai deux acteurs du secteur qui raconteront comment ils œuvrent, à leur échelle, pour un futur meilleur, plus vertueux et respectueux de notre planète. De cet échange naîtront, je l'espère, des axes de réflexion positifs et des pistes de solutions concrètes. Mais pour comprendre de quoi on parle, je voulais d'abord évoquer avec vous le rapport « Décarbonons la culture », publié en 2021 par le think tank The Shift, qui propose plusieurs scénarios pour réduire l'empreinte carbone du milieu culturel. Dans un chapitre consacré au spectacle vivant, on trouve la question des festivals, des tournées et des concerts, avec un chiffre parlant. Un grand festival en périphérie de ville, recevant 280 000 personnes sur 4 jours et sans mesures préventives pour l'écologie, émet environ 13 800 tonnes équivalent carbone, soit l'empreinte carbone annuelle de près d'un millier de Français. En première cause, les transports, du public, des artistes, de leurs équipes et du matériel, mais aussi l'alimentation. Évidemment, parler du bilan écologique de l'industrie musicale ne peut se limiter aux festivals ou aux tournées. C'est aussi regarder l'empreinte du numérique, la question du merchandising, l'énergie consommée par les salles de spectacle, les déchets, les ressources eau et matière mobilisées par exemple pour la fabrication du matériel. Autant d'éléments que nous évoquerons au cours de cet épisode. Et s'il est bien sûr impossible d'avoir un bilan carbone parfaitement neutre, la question que nous nous poserons dans cet épisode est la suivante. Que peut faire l'industrie musicale dans sa globalité pour réduire son empreinte carbone? Passons à présent à notre seconde rubrique, qui est une phase d'échange avec nos invités.
Little talk entre amis.
Alors une première question pour vous, Fakir. Vous êtes l'un des premiers artistes à avoir rejoint le mouvement Music Declares Emergency, comme je le disais un peu plus tôt. Est-ce que c'est le rôle des artistes de s'engager sur ces problématiques?
En fait, moi, c'est ma conviction personnelle. C'est à partir du moment où on a une voix qui porte, quelle qu'elle soit, on délivre un message, qu'on le veuille ou non, de par notre posture, de par notre image, de par ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, on devient une espèce d'influence et c'est important de la prendre en compte et de faire attention au message qu'on y délivre en fait. Du coup, c'est un peu l'adage de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est un petit peu ce truc-là. Du coup, c'était important pour moi de communiquer ces valeurs-là qui, à mon sens, sont des valeurs modernes et surtout vont au-delà même d'une opinion, qui sont vraiment des faits établis. La planète est en danger, on court un peu à la catastrophe d'un point de vue humain en tout cas. Voilà, du coup, moi, ça a été dès que l'occasion s'est présentée et dès que j'ai eu la sensation d'avoir suffisamment de poids, ça a été une évidence en fait de me placer et de commencer à divulguer ce message-là gentiment au début et de plus en plus activement ces dernières années. Ouais.
Et quand on parle d'artistes engagés, on pense à quoi?
Eh bien, justement, je me bats aussi pour changer cette espèce d'image de l'artiste engagé parce que généralement, en tout cas traditionnellement, j'ai l'impression les artistes engagés ont souvent cette image de gentiment, de hippie ou de baba cool de l'industrie parce qu'on les rattache à une espèce de... Je ne sais pas, parce que peut-être que les premiers à avoir pris la parole sur ce sujet-là étaient effectivement les baba cool. Et je les aime de tout mon cœur. J'en étais un moi-même il n'y a encore pas très longtemps. Mais voilà, et du coup, c'est quelque chose presque de décrédibilisant aux yeux du grand public. Quand on prend la parole et qu'on devient un artiste engagé, j'ai l'impression que ça devient presque notre genre de musique. On parle de musique engagée, d'artiste engagé. On les dépossède un peu du style de musique qu'ils font. J'aime bien prendre à chaque fois cet exemple-là en mode, par exemple, Trio. Qui sont des artistes qui font de la chanson française festive, disons, même ça va du reggae au ska jusqu'à il y a plein de choses, il y a même des trucs un peu jazzy, etc. Mais tout ça a été englobé dans une espèce de bulle complètement hermétique de musique engagée, c'est des artistes engagés, donc voilà, c'est un peu les babos de la bande, on s'en occupe pas trop, et j'ai l'impression que des organisations, en tout cas des rassemblements comme MDE ou DJs for Climate Action sont en train de changer ça dans le sens de rendre cet engagement cool, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout le but, mais ce qui finalement est un axe hyper important d'accès au grand public.
Le plus grand artiste dont je suis fan depuis que je suis tout petit, c'est Bob Dylan. Bob Dylan a toujours été étiqueté artiste engagé, mais il a toujours refusé ça. Donc moi, je suis super en phase avec ce que vient de dire Fakir, en fait. Il a écrit des chansons qui étaient certes engagées, mais il a refusé qu'on lui colle la responsabilité d'être le porte-étendard de ces messages-là. Et je pense qu'il a raison. Il fait les choses et ses chansons ont été interprétées et utilisées et à bon escient de ce point de vue-là. Mais c'est pas pour ça qu'il doit forcément être étiqueté ou porte-étendard. Ça reste des artistes, ça reste des chansons à message, à texte, certes, mais après, il faut que les gens se les approprient, ces chansons-là, et du coup, il faut qu'eux aussi aient des actions en adéquation avec ces sujets.
Alors, en janvier, on a plusieurs maisons de disques anglaises comme Beggars, Partisan Records, Ninja Tunes, qui ont signé le Music Climate Pact, qui se fixe des objectifs communs en réaction à la COP26. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en France? Et quel est, selon vous, le rôle des maisons de disques, mais aussi des distributeurs, de tous les acteurs dans l'industrie sur cette question-là, Romain Vivien?
Je pense que le rôle des maisons de disques, il est avant tout de comprendre les enjeux, d'auditer leur situation et de voir comment ils peuvent intervenir, et puis beaucoup, beaucoup d'expliquer, d'éduquer, de transmettre. L'idée, c'est d'abord de comprendre, chacun à son niveau, comment on pollue, pour en comprendre les causes, la nature et les niveaux, et ensuite pour pouvoir avoir des actions. On a mis en place un programme qui s'appelle Shaping Music for Good, qui est en gros notre marque étiquette autour de notre programme RSE. Au sein de ce programme RSE, il y a tous les sujets green. Je pense que c'est des actions collectives et c'est effectivement des mouvements et des organisations qui doivent faire le plus grand. Il faut toucher le plus grand monde. Et on touchera le plus grand monde par des moyens de communication différents qui doivent être adaptés en fonction des pays, en fonction des populations, en fonction des générations. On a beaucoup de retard par rapport à ça. Moi, je suis déjà de l'ancienne génération, mais quand je vois mes filles, elles sont nées là-dedans, donc elles pensent là-dedans, elles respirent là-dedans, elles réagissent comme ça. Quand je laisse... je leur ai pourtant toujours dit éteignez la lumière, fermez le frigidaire, etc. Mais quand je laisse le robinet un petit peu trop, je ne fais pas attention, immédiatement ils disent « Papa, éteins le robinet ». Donc c'est des actions, elles sont allées défiler dans la rue, elles sont encore petites, hein, elles ont 15 et 18 ans, donc, mais elles sont vraiment dans ces sujets-là. Donc je pense que la nouvelle génération va beaucoup nous aider et la nouvelle génération d'artistes va aussi beaucoup nous aider.
Vous, Fakir, c'est vrai qu'on dit souvent que vous faites partie de la nouvelle garde de la scène électro-française. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, voilà, vos compères sont sensibilisés sur ces questions
Oui, ouais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas et que grâce justement à ces mouvements-là dont on parle depuis tout à l'heure, MDE, DJ for Climate Action, etc., c'est quelque chose qui rassemble beaucoup de gens. Je pense que c'est dans la musique électronique, il y a toujours eu cette espèce de d'état d'esprit un peu... pas avant-gardiste, enfin si en fait, un peu avant-gardiste, c'est-à-dire ça, même en venant de la house ou de la techno qui défendait les droits LGBT bien avant, etc., enfin qui viennent de ce milieu-là, j'ai l'impression qu'en fait c'est toujours il y a toujours ce message et ce militantisme en fait caché derrière la musique électronique qui est peut-être moins visible maintenant, ou en tout cas toujours très vivace dans les milieux underground. Mais en fait, dès qu'on se met à aborder ces sujets-là, j'ai l'impression que tout le monde est assez sensible. Ouais.
Merci. Alors, pour rester justement sur la musique électronique, qui est évidemment un univers que vous connaissez bien, j'évoquais tout à l'heure la question des transports. Et j'aurais aimé vous faire réagir à un chiffre. Il y a une étude de Stem the Wax qui montre qu'un DJ en tournée pendant un mois atteindrait le même bilan carbone qu'un citoyen anglais moyen sur un an.
Évidemment, c'est impressionnant et effrayant. Et c'est souvent quelque chose qui m'a été remis sous le nez vis-à-vis de mon engagement, vis-à-vis de mon militantisme à ce niveau-là. C'est comme si, enfin, toute cette notion de perfection militante, en fait, à partir du moment où on prend la parole sur un sujet, on doit être irréprochable, etc. Et du coup, c'est souvent ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais d'où tu tiens cette légitimité à parler de ce sujet alors que tu dépenses beaucoup plus de carbone que n'importe quel citoyen lambda, et c'est vrai, c'est un vrai truc, mais ça doit pas du tout être un frein au fait de véhiculer ce message-là, au fait de diffuser un truc aussi important. On est tellement tributaire de cette machine et de ces moyens de transport, etc., que c'est très difficile finalement, j'ai l'impression, de trouver des moyens de tourner de manière écologique sans impacter la tournée en elle-même. Et finalement, c'est ça qui m'amène sur un autre sujet. J'imagine que tu allais venir gentiment sur ce truc-là, mais de la manière dont les tournées sont pensées et cette espèce d'épine dans le pied de tous les artistes qui est l'exclusivité territoriale. C'est une raison économique qui est complètement valable, mais écologique désastreuse. C'est vrai que c'est des fois un petit peu rageant de se dire « Zut, je suis en Bretagne ». Pourquoi demain je pourrais pas continuer mon tour de Bretagne et puis faire des tournées qui soient beaucoup plus locales et qui en plus mettraient en valeur des festivals plus petits et qui permettraient à beaucoup plus de festivals, beaucoup plus de salles, beaucoup plus d'événements en fait de prospérer à moindre échelle.
C'est un vrai sujet ça, et on en discutait il y a pas longtemps, et je sais que c'est un sujet que regarde le Prodis aussi, et je pense que le premier sujet aussi c'est peut-être que si certains artistes acceptaient de tourner pour un peu moins cher, parce que les gros internationaux coûtent très très cher, peut-être que les gros festivals n'auraient pas besoin de demander des exclusivités.
Alors, il y a un autre sujet dont nous prenons tout juste conscience depuis quelques années, c'est la question du streaming. Selon The Shift, toujours, la consommation des données culturelles en ligne représenterait à elle seule plus de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment y remédier ?
On est en train de le regarder et surtout de le mesurer. Là, on est dans des impacts indirects puisque nous, on passe par des data centers pour stocker nos titres. La pollution zéro sur ces sujets-là, elle est impossible. Je pense que nous, on a une réflexion qu'on mène avec les DSP de savoir aussi s'il est intéressant de livrer l'intégralité de nos titres sur l'ensemble de nos plateformes. Probablement pas. Probablement qu'à un moment, plus les marchés vont être matures, plus les usages vont être matures et plus on va pouvoir calculer tout ça, plus à un moment, il va aussi peut-être falloir faire des choix sur qu'est-ce qu'on distribue, qu'est-ce qu'on stocke pour être sûr qu'on est en phase avec la manière dont la musique se consomme et pas surproduire, surdistribuer, surstocker.
Pour revenir un peu sur l'écologie, Fakir, vos albums, ils sont très liés à la nature, aussi bien dans leur titre, quand on regarde Animal, Everything Will Grow Again, que dans les sonorités. Pourquoi ? Et est-ce que, en tant que compositeur, vous croyez en la puissance des récits pour faire bouger les lignes ? Est-ce que c'est quelque chose ?
Ah ouais, carrément, ouais. Ah oui, c'est complètement ce qui m'a fait arriver à l'écologie, c'est ce qui m'a fait me sensibiliser, c'est les récits, c'est l'imaginaire en fait, et c'est du coup ce que j'essaye moi de redistribuer. Finalement, je suis venu à l'écologie pas parce que j'ai vu des gens militer ou que j'ai côtoyé des gens qui militaient. Je suis venu à l'écologie parce que j'ai regardé Princesse Mononoké quand j'étais gamin, quoi. Et en fait, de Miyazaki. Et en fait, c'est Hayao Miyazaki qui m'a amené à l'écologie. Et du coup, cette puissance de l'imaginaire, en fait, moi, c'est quelque chose qui me drive complètement. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que ma musique est empreinte de ça par les titres, par les pochettes, par moi, mon positionnement personnel, etc. Mais c'est jamais dit. Et il n'y a jamais de parole qui va en parler, il n'y a jamais de choses. Enfin, le peu de paroles que j'ai dans des featurings avec des artistes, etc., généralement, c'est des chansons plutôt d'amour. Mais il n'y a pas grand-chose qui est en rapport avec la nature. C'est vraiment un espèce de... de courant un peu implicite, imaginaire, en fait, que j'essaye d'insuffler comme ça aux gens, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et musicalement aussi, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu, cette espèce de rapport à la nature. Ce qui m'a amené musicalement à ce type de musique, c'est Deep Forest. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout ma génération. Enfin, en tout cas, moi j'étais très 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 jeune, trop jeune pour en tout cas choisir ce que j'écoutais. Et c'est mes parents qui m'ont mis le premier album de Deep Forest dans les oreilles. Et ça a été quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Mais dans ces premières années-là, c'est un truc qui m'a complètement bouleversé.
Alors, une dernière question pour conclure cette partie. Quel est, selon vous, le chantier prioritaire en matière d'écologie pour l'industrie musicale aujourd'hui ?
Moi, j'en reviens et je pense que c'est le chantier prioritaire sur un nombre de sujets de société illimité. C'est l'éducation, c'est la formation pour essayer d'éduquer, de convaincre, de démontrer. Tous les grands sujets de société, ça passe avant tout par expliquer, par passer du temps, par être sur le terrain, par démontrer et pour que les gens se sentent concernés. Donc je pense que c'est avant tout ça. Et d'ailleurs, je trouve que tout ça vient de l'école, en fait. Hein, et donc je pense que tous ces sujets de société qui ont pris des places très importantes sur les 5-10 dernières années, mais il y en avait d'autres dans les décennies d'avant, hein, donc il y en a toujours eu, ça doit démarrer très tôt. Ça doit démarrer à l'école. C'est pour ça que les médias, les artistes, et qui sont des médias d'ailleurs, hein, les artistes vers leurs réseaux sociaux aujourd'hui ou leur prise de parole sont des médias, l'ensemble des acteurs qui à un moment peuvent faire passer des messages aux petits, du plus jeune âge aux seniors, doivent s'emparer de ce sujet-là. Et voilà.
Fakir ?
Oui, bah, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Effectivement, la sensibilisation, c'est complètement le nerf de la guerre. Et puis, et je dirais aussi la communication entre les différents corps de métier, entre les différents acteurs en fait, de l'industrie musicale, c'est quelque chose qui est encore à construire, j'ai l'impression. Déjà, entre les artistes, il y a cette espèce de, pas de défiance, mais de finalement de non-communication, en fait. On est énormément dans notre coin parce que très protégé par les managers, etc. Et tout ça. Et finalement, j'ai l'impression qu'une communication peut-être plus légère et plus simple pourrait démêler pas mal de choses. J'ai l'impression que le contact, finalement, se fait presque mieux d'artiste à label ou d'artiste à tourneur, etc., que d'artiste entre eux. Et je pense qu'il y a quelque chose peut-être à démêler aussi là-dessus parce que c'est bête, en fait, tout simplement, de ne pas pouvoir se dire... on est des collègues, en fait, finalement. On est des collègues troubadours sur la route et il y a plein de moments où je regrette de pas pouvoir pouvoir discuter directement avec mes collègues, quoi.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des prises d'initiatives comme ça, qui sont pas simples à porter, hein, mais on l'a vu avec We Are The World, on l'a vu avec Live Aid et Bob Geldof, etc., dont on parle encore aujourd'hui, qui ont été des événements planétaires, les artistes se sont réunis et tout d'un coup, ça a quand même beaucoup, ça a eu un vrai impact sur le public, quoi.
Merci à tous les deux. C'est déjà l'heure de notre troisième rubrique.
Le bout de son.
Pour rappel, on vous avait demandé à chacun de choisir un titre en rapport avec notre thématique du jour. Romain, vous avez choisi ce titre de 1971. Merci, merci, Mi de Marvin Gaye. Pourquoi ce titre ?
C'est un des premiers titres, il y en a sûrement avant, hein, mais c'est un des premiers titres qui est 100% sur l'écologie. D'ailleurs, il s'appelle Merci, merci, Mi, The Ecology. 71, hein, faut se remémorer où est-ce qu'on en est en 71 sur ces sujets-là. On est très 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 loin. Il y a zéro prise de conscience des industriels, des politiques. Ce sujet n'existe quasiment pas. Et lui, il parle de ça. Il parle de la pollution des mers, il parle des hydrocarbures, il parle de la pollution des airs et de la charge carbone, etc. Et il le dit avec une poésie, une sensualité et un message qui est, quand on lit les paroles, qui est extrêmement clair, qui sonne l'alarme en fait, hein, et où il dit merci, c'est-à-dire il demande pitié, c'est-à-dire qu'il est en train aussi de s'excuser au nom de l'humanité, au nom des hommes, sur l'impact que nos vies, que nos actions ont sur la planète. Pour moi, c'est une des premières chansons qui parle de ce sujet-là de manière extrêmement claire et avec une telle sensibilité et une telle poésie que je trouve qu'en plus, elle est extrêmement marquante.
Alors avec Fakir, on fait justement un bond de 20 ans dans le temps.
Ouais, au moins.
au moins, avec ce titre qui est donc sorti en 1992.
C'est 92 ?
92.
Ah ouais, la vache.
Pourquoi est-ce que ce morceau Deep Forest du groupe Deep Forest, dont vous parliez déjà un petit peu tout à l'heure,
l'album Deep Forest,
est votre choix ?
Bah parce que, comme je le disais, en fait, c'était vraiment. Moi, ça a été mon toboggan dans l'imaginaire de la nature, en fait. C'était, j'écoutais ce que mes parents me passaient comme musique. Ils étaient très fans de rock classique des années 70-80. Et en fait, c'était de la musique qui était parfois très imagée quand même, parce qu'il y avait beaucoup de choses, moi, qui me parlaient ou qui me faisaient partir dans un monde imaginaire. Je pense que j'ai toujours cette espèce de propension à chercher dans l'art quelque chose qui me fait m'évader du monde réel. Et que du plus loin que je me rappelle, c'est ça. Je me souviens pas quand est-ce que je suis devenu fan de Star Wars, par exemple, mais j'ai toujours été, pour moi, j'ai l'impression. Parce que c'est toujours quelque chose qui m'a fait partir. Et en fait, dans la musique, c'était ça aussi que je recherchais. Je sais que ma mère me disait souvent que j'avais 3-4 ans et que je dansais comme un fou sur des musiques qui n'étaient pas du tout dansantes, mais que sur Telegraph Road de Dire Straits, sur Shine On des Pink Floyd, pas de problème. Parce que ça m'envoyait dans un monde un peu où j'étais dans mon truc, quoi. Et donc Deep Forest, c'était ça. Et Deep Forest, c'était un petit peu le comment dire, c'était leur message, c'était on met le disque et pouf, on est dans la forêt, et c'est ça le but du jeu. C'est c'était, il y avait presque une portée un peu écologique là-dedans, parce que d'ailleurs le morceau démarre par cette espèce de voix gutturale qui parle des pygmées en disant est-ce que c'est le passé ou le futur de l'humanité, on ne sait pas trop. Et moi j'étais là, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement fou. Et puis tout l'album, du coup, voilà, comme je disais, m'a accompagné toute ma vie. Et ça a été le disons, l'étincelle qui a fait s'allumer un peu en moi ce feu-là de la musique électronique, de la musique figurative comme ça. Et avec... Il n'y a pas grand-chose, parce qu'en plus, il n'y a même pas de... Tu vois, comme je disais tout à l'heure, dans ma musique, c'est pas dit, ce rapport à la nature. C'est pas prononcé, c'est pas concret. Par une ambiance de forêt, par quelqu'un qui dirait des choses comme ça, etc. C'est distillé là-dedans, et Deep Forest, c'est un petit peu pareil, c'est pas dit, c'est des nappes de synthé qui vont te faire penser que t'es dans la forêt, et puis après il y a les samples de musique, de voix, de musique du monde, etc. Mais ouais, voilà, pour moi c'est vraiment, ça a été la petite pichenette. Peut-être que, je sais pas si sans eux j'aurais autant distillé ce message-là dans ma musique. Il y aurait eu forcément Miyazaki à côté qui aurait milité pour son truc. Mais Deep Forest, c'est le pan musical.
Ouais. Wow. Eh ben.
Mais c'est un bon exemple, parce que ça veut dire que Deep Forest a donné envie à Fakir de faire de la musique et de s'impliquer sur ces causes-là. Et donc, ce qu'on espère, c'est que la musique et les messages et les prises de parole de Fakir vont donner aussi à d'autres artistes l'envie de poursuivre ça. Donc, c'est super.
Et on en revient sur cette histoire de la puissance des récits aussi et des émotions qui peuvent être transmises aussi par...
Ouais.
Par la musique, complètement. Évidemment.
J'ai eu d'ailleurs la chance, l'occasion d'en parler avec Eric Mouquet, qui est maintenant le dernier membre de Deep Forest. Ouais. Et on bosse ensemble, d'ailleurs, en ce moment, tout ça est très secret. Mais,
sur un podcast, vous l'aurez entendu ici en premier.
C'est un voilà. Peu moins secret, là.
Mais du coup, oui, c'est moins secret maintenant. Mais du coup, ouais, j'ai eu la chance d'en discuter avec lui. Et c'est drôle, cette espèce de filiation inconsciente qu'il y a entre nos projets. Il en a complètement conscience, et moi aussi, et c'est hyper drôle, voilà.
No filter. Les questions.
Le concept est simple. Je vous pose 3 petites questions, et vous me répondez en quelques mots. Les 2 premières sont communes et la dernière personnalisée. On commence avec vous, Fakir. C'est quoi votre oxygène ?
L'imaginaire, c'est un mot un peu large. Mais c'est ça, je pense que je ne peux pas trop mieux résumer que ça, quoi. L'imagination. J'ai besoin, même dans chacune de mes journées, d'avoir ces moments-là complètement off, complètement déconnectés du monde réel. Et ça va être lire des BD... jouer avec des petites figurines. J'ai toujours ces figurines que j'avais quand j'étais petit, et j'ai jamais arrêté de m'inventer des histoires avec. C'est complètement secret ce que je raconte là, n'importe quoi. Et j'ai toujours une boîte dans ma table de nuit avec plein de petits bonhommes, et des fois je me pose et je joue et je fais des histoires, et j'ai besoin de ça. Moi, c'est mon oxygène, complètement.
Ok. Et vous, Romain ?
Moi, je pense que c'est mes filles, c'est mes enfants qui me ramènent à la réalité sur des sujets, qui sont concernés par ces sujets. Où je les vois, où elles vont beaucoup plus vite que nous ou que ma génération à l'époque sur ces sujets-là, et qui me gardent connecté aussi à des choses importantes qui sont la famille, qui sont l'éducation, qui sont les valeurs. Voilà, et malheureusement, parfois je suis en manque d'oxygène parce que je travaille énormément et que j'ai pas beaucoup de temps à passer avec elles. Et elles grandissent très très vite. Et donc c'est ça. Et c'est aussi, voilà, le dimanche, aller faire des expos et regarder des choses avec des artistes justement qui proposent des choses qui déclenchent cet imaginaire. Parce que je suis assez d'accord, l'imaginaire et la façon de raconter des histoires, c'est fondamental. Et moi qui suis dans la culture, mais qui m'intéresse assez à beaucoup d'autres cultures que la musique, ça c'est intéressant. Ça permet aussi de prendre du recul, de réaliser certaines choses, d'intégrer des messages sous différentes formes. Et puis de réaliser que. Il y a les problématiques du quotidien, mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement poétiques et qui permettent un peu justement de s'évader, quoi.
Merci. Comment est-ce que vous voyez la Terre en 2050 ?
Du coup, ça dépend un peu des timelines, quoi. Ça peut partir complètement dans deux directions, mais je vais poser la version espoir, quoi. Je l'imagine comme une espèce de j'imagine qu'on va réussir à développer une symbiose en fait avec la nature et réussir à s'inspirer, on le fait déjà énormément dans l'art en fait, à s'inspirer des motifs naturels pour créer des choses qui sont totalement responsables, totalement en fait imbriqué en fait dans l'écosystème. Je sais que dans l'architecture on le fait déjà beaucoup parce que finalement il y a tout est dans la nature entre guillemets, mais au niveau architectural il y a des choses extrêmement ingénieuses qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, dont on s'inspire. Et je pense que c'est là-dedans en termes d'infrastructure qu'on va pouvoir être de plus en plus respectueux. Donc j'imagine la Terre en 2050 comme une espèce de dystopie hyper positive de comme on voit parfois dans les dessins animés ou dans les films qui parlent du futur, avec des immeubles complètement verts, des villes complètement remplies de verdure, etc. Ultra technologique en même temps, parce qu'il y a cette part de science-fiction que j'aime bien. J'aime bien me dire que dans les années 70, ils voyaient l'an 2000 avec des voitures qui volent et que bon, effectivement, c'est pas là et que moi, je vois les années 2050 avec des voitures qui volent enfin.
On verra cette fois si c'est là.
Ouais, voilà. Et les voitures qui volent, mais à l'hydrogène, tu vois. Des trucs comme ça. Donc ouais, une terre très verte et complètement symbiose avec nos infrastructures et notre technologie moderne, quoi.
Et alors vous, Romain, en 2050, ça donne quoi ?
Je sais pas ce que je vois, mais j'espère une terre plus solidaire. Plus solidaire, on est une seule planète, il n'y en a pas deux, il n'y a pas de plan B. Là, toutes les explorations spatiales, SpaceX, etc., pour Mars, j'y crois moyen. Même si je ne remets pas en cause la conquête de l'espace, sur lequel on a des choses à apprendre, mais je pense qu'on doit d'abord se préoccuper de la nôtre. Donc, j'espère une Terre plus solidaire, plus équilibrée. Moi, je vois beaucoup de fractures, en fait. Entre un pays et un autre, entre une population à une autre, entre une ville ou un quartier ou un niveau social à un autre. Donc moi, j'espère une terre plus solidaire et où, je l'espère, la culture jouera son rôle. Moi, je ne suis pas dans ce métier par hasard, je suis dans ce métier parce que j'aime raconter des histoires et que j'ai été aussi beaucoup marqué pendant mon enfance par des œuvres musicales ou autres ou cinématographiques. Et je pense que ces gens-là, ces artistes-là, moi, je ne le suis pas, j'aurais aimé, mais j'ai pas du tout le talent, sont des gens qui peuvent aider à imaginer le futur et à faire prendre conscience que c'est vers ça qu'il faut aller et à envoyer des messages. Donc j'espère plus de solidarité, plus d'égalité, et effectivement dans lequel l'écologie est probablement le sujet numéro un. Moi je mets l'éducation vraiment égalité parce que je pense que tout part de l'éducation pour aider à l'écologie et à tous les autres sujets, mais où sans ça on n'y arrivera pas et on voit que les choses s'accélèrent. Le dernier rapport du GIEC est alarmant, donc j'espère qu'on va y arriver.
Romain, believe, ça signifie croire.
Oui.
Est-ce que vous êtes confiant en la capacité de l'humanité à se mobiliser pour le changement ?
J'ai envie de répondre oui parce que je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais je pense que ça va vraiment être compliqué. Je pense que ça va être compliqué parce que, encore une fois, chaque pays n'est pas au même niveau de développement, n'a pas les mêmes préoccupations. Aujourd'hui, l'écologie, j'arrête pas de le dire, c'est un truc commun et on voit bien que si l'Europe essaye de faire des choses, mais que les États-Unis et la Chine, qui sont les deux premiers pays pollueurs au monde, ne suivent pas, il va pas se passer grand-chose ou en tout cas, ça ne sera pas suffisant. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut pas dire qu'il faut sans arrêt attendre les autres pour faire. Je pense qu'il faut bien démarrer quelque part. Je pense que la seule chose qui va nous permettre d'y arriver, c'est d'enfin réaliser, et on est en train de le faire, qu'on n'a absolument pas le choix, en fait. Je pense que la question, c'est pas de savoir si on doit, si on peut, c'est de dire qu'on doit, en fait. Parce que sinon, on va dans le mur. Et donc, si on veut continuer à profiter de cette planète Terre, qui est quand même exceptionnelle, et pour nous, et nos enfants, et nos petits-enfants, et nos arrière-petits-enfants, on a pas le choix. Donc, il faut impérativement se donner les moyens. Mais malheureusement, je pense que tout ce que je vois, malgré les prises de conscience depuis une dizaine d'années et la COP21 qui date depuis un moment, je trouve qu'on progresse très lentement, très très lentement.
Fakir, de votre côté, vous parliez d'espoir. On parle souvent du goût des choses. J'avais envie de vous poser une question un petit peu différente. C'est à quel son l'espoir ?
Très bonne question.
Ça demande un peu de faire un peu de synesthésie. L'espoir, ça a le son d'un cœur, un cœur d'homme, un cœur d'humain, un cœur de homme-femme, etc. Une chorale qui chante la même note, un cœur à l'unisson qui chanterait la même note. Un truc un peu comme ça. J'avais envie de citer des modèles de synthétiseurs parce que je viens de ce milieu-là, mais en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus porteur d'espoir que la voix humaine. Et puis un cœur qui chante à l'unisson une note, c'est tellement impressionnant que je pense que s'il y avait une note, ce serait ça.
Merci à tous les deux d'être venus sur ce podcast et de vous être prêtés au jeu. Et on espère vous retrouver bientôt, Fakir en DJ7 ou en concert ou sur scène, et Romain à travers les différents projets que vous menez avec Believe. Merci.
Merci.
Merci. Clap de fin.